Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Bezvachim, page 66, Dav Samer Vav. Bonne écoute et bon limoud.
En Tsarich Leavdil, le pasouk veut simplement dire qu'il n'est pas nécessaire de séparer la tête du cou, donc de sectionner les deux organes vitaux pour l'oiseau offert comme korban chatat. Mais en fait, s'il le fait, ce n'est pas grave, nous ne considérons pas qu'il a changé la manière de sacrifier l'oiseau et donc l'a transformé en korban olah. Et par conséquent, en toutes circonstances, le sacrifice sera valable. Amar le Rav Acha Berei de Rava le Rav Ashi. Rav Acha, fils de Rava, a posé la question suivante à Rav Ashi. Et la Meata, si c'est ainsi qu'on interprète le pasouk, Gabe Bor, à propos d'une puits qu'une personne creuse dans un domaine public et dans lequel est tombé un bœuf ou un âne, Dirtiv à propos duquel le pasouk dit dans Shemot Kafalev Veloi Chasenu, et il ne l'a pas couvert. Le pasouk poursuit en disant, le propriétaire du puits devra payer les dégâts. Hachanami de Ensarich Lechasot, est-ce qu'ainsi aussi on va interpréter le pasouk qu'il veut dire qu'il n'est pas nécessaire de couvrir le puits? L'Agma répond à Riachta, voyons voir. Hatam là-bas, concernant le puits creusé dans un domaine public, qui va Dirtiv, puisque le pasouk dit, toujours dans le même chapitre, Baal Habor Yeshalem, le propriétaire du puits payera donc les dégâts. Il avait Houderame le Chassouye, c'est à lui qu'incombe l'obligation de couvrir ce puits s'il veut éviter les dégâts et donc de payer. Il est donc évident que ce que le pasouk veut dire, c'est qu'en fait il doit le couvrir et s'il ne l'a pas couvert, il payera les dégâts. Aval Hacha, mais ici, en ce qui concerne l'oiseau offert comme korban chatat, Mirdektiv, puisqu'il est écrit dans Vaikra Aleph concernant l'oiseau offert comme korbanola vehikrivo, et il l'approchera, il l'offrira. Le pasouk s'exprime au singulier. Chilek hakatuv ben chatat haof le olat haof. C'est de là que Rabbi Lazar Rabbi Shimon apprend qu'il y a une différence. Donc le pasouk a fait la différence entre l'oiseau offert comme korban chatat et celui offert comme korban olah. Et donc nous apprenons de là que l'oiseau offert comme korban chatat ne nécessite que le sectionnement d'un seul des organes vitaux, tandis que pour l'oiseau offert comme korban olah, il faut sectionner les deux organes vitaux. En effet, comme la Gemara l'explique dans Masechet Chulin, Daf Kaf Alef, Rabbi Lazar Rabbi Shimon n'apprend pas, comme nous l'avons vu précédemment, Depsukim ou Malak Viktir, qu'il faut séparer entièrement la tête du corps, car selon lui, en fait, il ne faut pas séparer entièrement la tête du corps, il ne faut sectionner que la majorité des deux organes vitaux, en laissant donc une partie attachée. Et d'ailleurs, comme la Gemara l'explique dans Masechet Chulin, il apprend d'un autre pasouk qui compare au contraire l'oiseau offert comme korban olah et celui offert comme korban chatat, que de même que pour le korban chatat, il faut asperger le sang alors que la tête est attachée au corps, pour le korban olah, il en sera de même. Comme l'explique le Taharat HaKodesh, qui explique longuement ce passage, de toute façon, même pour l'oiseau offert comme korban olah, il y a une interdiction de séparer entièrement la tête du corps, il faut laisser une partie des deux organes vitaux. Et si le pasouk voulait nous enseigner qu'il était interdit de séparer la tête du corps pour l'oiseau offert comme korban chatat, Rabbi Lazar Berabi Shimon comprend que cette interdiction n'existerait que s'il séparait entièrement la tête du corps. Et cette interdiction existe déjà même pour l'oiseau offert comme korban olah. Si c'est ainsi, lo yavdil lamali, qu'est-ce que vient nous apprendre de nouveau le pasouk lorsqu'il dit « il ne séparera pas » C'est-à-dire finalement, comment est-ce qu'on interprétera ce pasouk? Si ce pasouk voulait nous dire qu'il est interdit de séparer la tête du corps, le pasouk qui dit « veikrivo » au singulier et donc qui marque la différence entre l'oiseau offert comme korban chatat et celui offert comme korban olah ne pourrait que nous enseigner qu'il est permis de séparer la tête du corps. Donc finalement, on n'aurait pas appris qu'il existe une différence entre la manière de sacrifier a priori l'oiseau offert comme korban olah et celui offert comme korban chatat, pour dire que pour l'oiseau offert comme korban olah, il faut séparer la tête du corps. Shema Mina, forcément donc, le pasouk veut nous enseigner lorsqu'il dit « il ne séparera pas » En Tsarich Lavdil, il veut nous enseigner que pour l'oiseau offert comme korban chatat, il n'est pas nécessaire de séparer la tête du corps, tandis que pour l'oiseau offert comme korban olah, nous l'apprenons du pasouk Veikrivo, comme nous l'avons dit, qu'il faut séparer la tête du corps. Donc, C'est ainsi que nous apprenons qu'il existe une différence a priori entre la manière de sacrifier le korban olah, où il est nécessaire de séparer la tête du corps, donc de sectionner la majorité des deux organes vitaux, et celle dont on doit offrir le korban khatat, où on peut se contenter de ne séparer que la majorité d'un des deux organes vitaux. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Mitza, Dam, Hagouf, etc. » Si il a écrasé le corps de l'oiseau pour faire sortir le sang de son corps pour l'asperger sur l'autel, mais il n'a pas écrasé la tête de l'oiseau contre la paroi de l'autel pour faire sortir son sang sur la paroi de l'autel, le sacrifice est valable. La Gemara dit là-dessus « Tanu Rabbanan, nos chachamim ont enseigné dans une braïta. » Le pasouk dit « Ola », donc concernant l'oiseau offert comme korban olah, c'est un korban olah, en général, même si toutes les actions n'ont pas été effectuées correctement, cela nous enseigne. Un falpi chez Mitza Dam Hagouf, même s'il a écrasé le corps pour faire sortir son sang et le faire couler le long de la paroi de l'autel, Velo Mitza Dam Arosh, mais n'a pas écrasé le corps pour faire sortir son sang et le faire couler le long de la paroi de l'autel, le sacrifice est quand même valable. Yachol, nous lisons selon la Shita Mkubetset, Afilu Mitza Dam Harosh, Velo Mitza Dam Hagouf, on aurait pu penser que le sacrifice sera valable, même s'il a écrasé la tête de l'oiseau pour faire couler son sang le long de la paroi de l'autel, mais n'a pas écrasé son corps pour faire couler son sang le long de la paroi de l'autel, aussi le sacrifice sera valable. Talmud Lomar, c'est pour cela que le pasouk dit hu, donc olahu, c'est un korban ola, ce qui exprime une restriction pour nous dire que seulement si le sacrifice a été effectué correctement, il est valable, sinon il n'est pas valable. Pour nous enseigner que s'il n'a pas écrasé le corps pour faire couler son sang le long de la paroi de l'autel, le sacrifice ne sera pas valable. Alors la Gemara demande, mais Talmuda, comment est-ce que nous l'apprenons? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait la différence entre celui qui a écrasé le corps et celui qui s'est contenté uniquement d'écraser la tête de l'oiseau pour faire couler son sang le long de la paroi de l'autel? La Gemara répond, Amar Ravina Mistabra, il est logique de dire qu'il est impératif d'écraser le corps de l'oiseau pour faire sortir son sang et le faire couler sur la paroi de l'autel, de Rov Damim Begouf Shriche, car la majorité du sang de l'oiseau se trouve dans le corps de l'oiseau et non pas dans sa tête. Il est donc logique de dire, si le pasouk fait une différence, qu'il est impératif d'écraser le corps de l'oiseau pour faire couler son sang le long de la paroi de l'autel, et il ne sera pas impératif d'écraser la tête de l'oiseau pour faire couler son sang le long de la paroi de l'autel. Hadrana Lar Kodesh Kodashim, nous avons fini ici l'étude du sixième perek de Maseret Zvachim. Nous avons fini ici aussi le shiur de Maseret Zvachim, Daf Samerhe. Nous commençons le shiur de Maseret Zvachim, Daf Samervav. Nous commençons aussi l'étude du septième chapitre de Maseret Zvachim. Ce chapitre est une suite du chapitre précédent. Le sujet qui va y être traité, c'est concernant les oiseaux offerts comme korban khatat ou comme korban olah d'une manière incorrecte, à savoir quel est leur statut, donc si le sacrifice est valable ou non, et dans quelle mesure l'interdiction de Me'ila, qui est l'interdiction de profiter d'un animal sacré ou d'un objet sacré, aura été levée ou non, puisque le sacrifice n'a pas été offert correctement, et aussi concernant le statut d'impureté de ces oiseaux qui ont été offerts d'une manière incorrecte. Rappelons tout d'abord les différences qui existent entre les actions de l'offrande d'un oiseau offert comme korban khatat et celles de l'offrande d'un oiseau comme korban olah. Alors, premièrement, la sacrification d'un oiseau offert comme korban khatat peut se faire n'importe où, c'est-à-dire soit au pied de l'autel, soit même au sommet de l'autel, tandis que celle de l'oiseau offert comme korban olah ne peut se faire qu'au sommet de l'autel. Deuxièmement, pour la sacrification d'un oiseau offert comme korban khatat, il ne faut sectionner qu'un seul des deux organes vitaux de cet oiseau. Nous avons vu cependant qu'il existe un avis qui permet de sectionner les deux organes vitaux, mais en tout cas, ce n'est pas nécessaire de le faire, même selon cet avis. Tandis que pour l'oiseau offert comme korban olah, il est impératif de sectionner les deux organes vitaux pour sa sacrification. Troisièmement, l'aspersion du sang du korban khatat se fait à la base de l'autel au coin sud-ouest, tandis que celle du korban olah se fait au sommet de l'autel. Pour le korban khatat, Tout d'abord, le Kohen devait lever l'oiseau et le rabaisser violemment pour faire gicler son sang en direction de l'autel. Puis seulement après, il écrase le corps et la tête de l'oiseau contre la paroi de l'autel pour faire couler le reste du sang. Selon plusieurs Tanaïm, d'ailleurs cette action n'est pas impérative. Tandis que pour le Korban Ola, le Kohen écrase le corps de l'oiseau dans ses mains pour faire gicler le sang sur la paroi de l'autel, donc au sommet de l'autel. Puis après, il écrase la tête de l'oiseau pour faire couler le reste de son sang le long de la paroi de l'autel. Cette dernière action n'est pas impérative. La Mishnah dit, Chatat ha'ov she'asa'a lemata, un oiseau offert comme Korban Chatat, qu'il a, donc que le Kohen a sacrifié en bas au pied de l'autel, Kema'ase Chatat, à la manière dont on offre un Korban Chatat, donc en ne sectionnant qu'un seul des deux organes vitaux, en rabaissant violemment le corps de l'oiseau pour faire gicler son sang sur l'autel, puis ensuite il a écrasé le corps et la tête de l'oiseau contre la paroi de l'autel pour faire couler le reste de son sang vers la base de l'autel. Les Shem Chatat, et ce, en ayant l'intention qu'il s'agit d'un Korban Chatat, donc il a sacrifié et offert cet oiseau correctement, Kshera, cet oiseau, donc ce sacrifice, est valable. Ce cas est évident, mais comme le précise le Tosfot, la Mishnah a rédigé ce cas en même temps que les cas qui suivent pour marquer la différence. Kema'aseh Chatat Leshem Ola, s'il a offert cet oiseau comme Korban Chatat, à la manière dont on le fait pour un Korban Chatat, comme nous l'avons décrit, mais avec l'intention qu'il s'agit d'un Korban Ola, ou bien Kema'aseh Ola Leshem Chatat, ou bien s'il l'a offert à la manière d'un Korban Ola, c'est-à-dire il a sectionné les deux organes vitaux, ou bien il a simplement écrasé le corps de l'oiseau pour faire gicler son sang sur la paroi de l'autel, mais quand même avec l'intention qu'il s'agissait d'un Korban Chatat, ou bien Kema'aseh Ola Leshem Ola, bien s'il l'a sacrifié à la manière d'un Korban Ola, comme nous l'avons expliqué, avec l'intention qu'il s'agissait d'un Korban Ola, psula, ce sacrifice est invalidé. Asa'a lemala kema'ase kulan, s'il a sacrifié cet oiseau comme Korban Chatat en haut, donc au sommet de l'autel, à la manière dont on offre n'importe lesquels de ces sacrifices, donc soit s'il l'a fait à la manière d'un Korban Chatat, soit s'il l'a fait à la manière d'un Korban Ola, psula, ce sacrifice est invalidé. La Gemara expliquera. Olat ha'ov she'asa'a lemala, un oiseau offert comme Korban Ola, qu'il a sacrifié en haut, donc au sommet de l'autel, Kema'aseh Ola, et ce à la manière dont on fait pour un Korban Ola, c'est-à-dire en sectionnant les deux organes vitaux et en écrasant le corps de l'oiseau pour faire gicler son sang à la paroi de l'autel, Leshem Ola, et ce avec l'intention qu'il s'agit d'un Korban Ola, Kshera, ce sacrifice est valable, ceci est évident. Kema'aseh Ola Leshem Chatat, s'il l'a sacrifié à la manière d'un Korban Ola, donc comme nous l'avons décrit, avec l'intention qu'il s'agit d'un Korban Chatat, Kshera, le sacrifice est valable, ou Bilvad Shelo Alta Lebalea, cependant, ce sacrifice ne compte pas pour son propriétaire, c'est-à-dire, effectivement, ce sacrifice reste un Korban Ola, mais comme il l'a sacrifié au nom d'un autre sacrifice, le propriétaire, donc celui qui a offert ce sacrifice, doit en offrir un autre pour le remplacer, comme nous l'avons vu au début de cette Masechet. Kema'aseh Chatat Leshem Ola, s'il l'a sacrifié à la manière d'un Korban Chatat, c'est-à-dire en ne sectionnant qu'un seul des deux organes vitaux, ou bien s'il a rabaissé violemment cet oiseau pour faire gicler son sang sur la paroi de l'autel, Leshem Ola, et ce avec l'intention qu'il s'agit d'un Korban Ola, ou bien Kema'aseh Chatat Leshem Chatat, ou bien s'il l'a sacrifié à la manière d'un Korban Chatat, comme nous l'avons expliqué avec l'intention qu'il s'agit d'un Korban Chatat, psula, le sacrifice est invalidé, car finalement il n'a pas été sacrifié correctement. Asa'a lemata Kema'aseh Kulan, s'il l'a sacrifié en bas, donc au pied de l'autel, et ce, à la manière dont on fait n'importe lequel de ces sacrifices, donc soit s'il l'a offert à la manière d'un Korban Chatat, soit s'il l'a offert et sacrifié à la manière d'un Korban Ola, psula, ce sacrifice est invalidé, car il n'a pas été sacrifié à l'endroit où il faut le faire.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Samech Vav Amud Bet. Nous avons vu donc dans la Mishnah que celui qui a offert un oiseau destiné à être un korban khatat, à la manière dont on le fait pour un korban ola, avec l'intention qu'il s'agissait d'un korban khatat, quand même, ce sacrifice est invalidé. Même finalement s'il l'a sacrifié au pied de l'autel. Alors la Gemara demande d'Eshané Bemaï, qu'a-t-il changé pour la sacrification de cet oiseau pour dire qu'il a été sacrifié à la manière d'un korban ola? Il est ma d'Eshané Bimlika, si tu veux dire qu'il a changé dans la manière dont il a sectionné la tête de l'oiseau, c'est-à-dire qu'il a sectionné les deux organes vitaux au lieu de n'en sectionner qu'un seul. Nema de lo Karbel Azar Rabbi Shimon, dira-t-on que cette Mishnah ne suit pas l'opinion de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon de Amar, car en fait il dit Shamati Shemavdilin Bechatataof, j'ai entendu qu'il est possible de séparer la tête du corps de l'oiseau offert comme korban khatat. Donc selon lui, il est permis de sectionner les deux organes vitaux. Donc pourquoi est-ce que la Mishnah déclare que cet oiseau, donc ce sacrifice, est invalidé? Alors la Gemara s'étonne, Velo ou Kimna de l'eau que Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, n'a-t-on pas dans le chapitre précédent établi que notre Mishnah, donc la Mishnah du chapitre précédent, ne suit pas l'opinion de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon? Il en est de même pour celle-ci. Alors la Gemara répond, l'eau, non. C'est-à-dire, toujours pourrais-je te dire que notre Mishnah, dans notre chapitre, peut suivre l'opinion de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Mais ici, Deshané Be'azaha, ce qu'il a fait, c'est qu'il a changé la manière d'asperger le sang. C'est-à-dire, au lieu d'abaisser violemment le corps de l'oiseau pour faire gicler son sang sur la paroi de l'autel, il l'a écrasé pour faire gicler son sang sur la paroi de l'autel. C'est ainsi que nous disons qu'il a agi comme s'il s'agissait d'un korban ola. Et là-dessus, donc, la Mishnah dit que le sacrifice est invalidé, et ce même selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. La Gemara poursuit à Khinami Mistabra. Effectivement, il est logique de dire que c'est cela le changement qui a eu lieu, midekatane sefa, car il est enseigné à la fin de notre Mishnah, donc à la suite de notre Mishnah, asa'a lemala kemase kulan psula. S'il l'a sacrifié, donc cet oiseau, destiné à être un korban khatat, en haut, au sommet de l'autel, à la manière de n'importe lequel de ces deux sacrifices, le sacrifice est invalidé. Donc, la Gemara constate, va filu kemase khatat leshem khatat. Il s'agit donc même d'un cas où il l'a offert à la manière d'un korban khatat au nom d'un korban khatat. Alors la Gemara se demande, Deshané Bemaï, quel changement a-t-il fait? Autrement dit, quelle des actions de l'offrande de ce sacrifice a-t-il fait en haut au sommet de l'autel? Il est ma Deshané Bimlika, si tu veux me dire que le changement qu'il a fait, c'est concernant le sectionnement de la tête de cet oiseau. Donc c'est cela qu'il a fait au sommet de l'autel. Comment est-il possible de dire que ce sacrifice est invalidé? Ha'amarmar, pourtant, nous avons dit, dans une braïta que nous avons vue plus haut d'Af Samer Gimel Amud Bet, nous lisons selon les Shita Mukubetset, Malka Bechol Makom Bamizbeach Kshera. S'il a sectionné la tête de cet oiseau destiné à être un korban khatat n'importe où dans l'autel, donc soit au pied de l'autel, soit au sommet de l'autel, le sacrifice est valable. Et la lave, n'est-ce pas donc Deshané Be'azaha? Le changement qui a eu lieu, c'est concernant l'aspersion de ce sacrifice. Autrement dit, ce que ce Kohen a fait au sommet de l'autel, c'est l'aspersion du sang de cet oiseau. Et c'est pour cela que le sacrifice est invalidé. Umide Sefa Be'azaha, et puisque nous prouvons que la fin, donc la suite de la Mishnah, parle d'un changement concernant l'aspersion du sang, Resha Nami Be'azaha, on pourra dire aussi que le début de la Mishnah parle aussi d'un changement concernant l'aspersion du sang et non pas concernant la sacrification, ou plutôt le sectionnement de la tête de cet oiseau. Donc au contraire, finalement, nous aurons une preuve que cette Mishnah suit l'opinion de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Alors la Gemara réfute cette preuve. Midei Ria, peux-tu prouver une chose d'une autre? Ha Kedeita, Beha Kedeita. Ce cas, donc, le début de la Mishnah parle comme on peut l'établir, c'est-à-dire soit lorsqu'il y a un changement concernant l'aspersion du sang, ou même si le changement a lieu concernant la sacrification de cet oiseau, tandis que la suite de la Mishnah parle du cas qui peut être établi, c'est-à-dire le cas où le changement a lieu concernant l'aspersion du sang de cet oiseau. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Ola Taof », etc. Un oiseau offert comme Korban Ola qui a été sacrifié d'une manière incorrecte, ce sacrifice est invalidé. La Mishnah parle entre autres d'un cas où cet oiseau destiné à être offert comme Korban Ola a été sacrifié à la manière d'un Korban Khatat, à la base de l'autel et au nom d'un korban khatat. Donc dans ce cas, le sacrifice est invalidé. Alors la Gemara demande, Deshane Bemai, quel changement a-t-il fait pour dire qu'il a sacrifié ce sacrifice à la manière d'un korban khatat? Il est ma Deshane Bimlika, si tu veux dire que ce qu'il a changé, c'est concernant le sectionnement de sa tête, c'est-à-dire qu'il n'a sectionné qu'un seul des deux organes vitaux au lieu de sectionner les deux. En là-dessus, nous lisons sur la Shittah Mekoubetzet, Dekatane Sefa, ce qui est enseigné à la fin de la Mishnah. Il s'agit de la Mishnah suivante. Kulan, tous ces sacrifices qui sont invalidés, En Metamin Bevet Ablia, ne transmettent pas l'impureté d'un cadavre d'un oiseau lorsque la personne qui en mange est en train de l'avaler, c'est-à-dire l'impureté du cadavre d'un oiseau ne se transmet que lorsqu'une personne en mange et il est en train de l'avaler. Donc ce que la Mishnah veut dire, que ces sacrifices, même ceux qui sont invalidés, ne sont pas considérés comme étant des cadavres d'oiseaux, car nous considérons qu'ils ont été sacrifiés, même si finalement il est interdit d'en consommer. Ou Moalin Bahen, cependant, celui qui en tire profit transgresse l'interdiction de Meila, puisque finalement, ce sacrifice n'a pas été permis à la consommation des Kohanim. Alors la question se pose, Nema de l'Ok Rabbi Yoshua, dira-t-on que notre Mishnah ne suit pas l'opinion de Rabbi Yoshua? Deik Rabbi Yoshua, car si nous disons que notre Mishnah suit l'opinion de Rabbi Yoshua, Ha'amar pourtant il dit, comme nous le verrons dans la Mishnah suivante, qu'un oiseau destiné à être offert comme korban ola, qui a été sacrifié à la manière d'un korban khatat, au nom d'un korban khatat, au pied de l'autel, est transformé en korban khatat, et il sera donc permis à la consommation. Par conséquent, en moalin, celui qui en tire profit, n'a pas transgressé l'interdiction de Meila. Ve'ela, forcément, si tu veux dire que notre Mishnah suit l'opinion de Rabbi Yoshua, Bemitsui, il faudra dire que le changement qui a eu lieu, c'est concernant l'aspersion du sang de cet oiseau, c'est-à-dire au lieu d'écraser son corps pour faire gicler son sang sur la paroi de l'autel, il l'a rabaissé violemment pour faire gicler son sang à la manière d'un korban khatat. Dans ce cas, même Rabbi Yoshua sera d'accord que celui qui en tire profit a transgressé l'interdiction de Meïla, car en fait, ce que Rabbi Yoshua dit, c'est que l'oiseau destiné à korban ola peut se transformer en korban khatat tant que le statut de korban ola n'a pas pris effet. Mais si la sacrification de l'oiseau a lieu comme un korban ola, donc finalement il s'agit d'un korban ola, il ne peut pas être transformé par la suite en korban khatat. Donc forcément, nous devons dire que la transformation qui a eu lieu, c'est après la sacrification de l'oiseau, donc pour l'aspersion du sang, et non pas pour la sacrification de l'oiseau. Et Masefa, voyons voir la fin de la Mishnah. Il s'agit donc de la Mishnah suivante. Olat ha'of sha'asa'ah lemata kema'ase khatat leshem khatat. Un oiseau destiné à être un korban ola, qu'il a sacrifié en bas au pied de l'autel, à la manière d'un korban khatat, au nom d'un korban khatat, donc en pensant qu'il s'agissait d'un korban khatat. Rabbi Eliezer Omer Moalimba, celui qui en tire profit a transgressé l'interdiction de Meïla, car ce sacrifice est invalidé. Rabbi Yoshua Omer En Moalimba, celui qui en tire profit n'a pas transgressé l'interdiction de Meïla. Donc c'est la discussion entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Deshane Bemai, alors la Gemara demande, quel changement a-t-il fait pour dire qu'il l'a sacrifié comme un korban khatat? Il est ma Bemitsui, si tu veux dire que le changement qu'il a fait, c'est concernant l'aspersion du sang. Emar d'Amar Rabbi Yoshua Deshane Bemlika, il est vrai que Rabbi Yoshua a dit son opinion lorsqu'il a fait un changement pour la sacrification de l'oiseau, comme nous l'avons dit précédemment, en faisant ceci, il l'a transformé en korban khatat, bemitsui me'amar, mais s'il a fait un changement concernant l'aspersion du sang, en agissant comme un korban khatat, a-t-il dit cela, donc maintient-il son opinion que cet oiseau, ce sacrifice est transformé en korban khatat? C'est impossible. Et là, forcément, tu devras dire bemlika, le changement qui a eu lieu dans la Mishnah suivante, c'est un changement concernant la sacrification de l'oiseau, donc lorsqu'il a sectionné un seul des deux organes vitaux, au lieu d'en sectionner les deux. Alors finalement, nous arrivons à la conclusion que Recha, le début de notre Mishnah, si comme la Gemara l'a dit précédemment, nous voulons maintenir que cette Mishnah ne suit pas l'opinion de Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon. Vesefa est la fin de la Mishnah, il s'agit de la Mishnah suivante. Bimlika parle d'un changement concernant la sacrification de l'oiseau, comme nous l'avons prouvé. Umetziata est le cas du milieu, donc le cas de notre Mishnah, qui parle d'un oiseau destiné à être offert comme Korban Ola, qui a été offert à la manière d'un Korban Khatat, et donc ce sacrifice est invalidé. Bemitsui, il s'agit d'un changement concernant l'aspersion du sang, comme nous l'avons prouvé, car sinon, cette partie de la Mishnah ne suivrait pas l'opinion de Rabbi Yoshua, elle suivrait plutôt celle de Rabbi Eliezer. Or, nous savons que la halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer, car à la suite d'une discussion qu'il a eue avec les Chachamim, il a été excommunié. C'est pourquoi, en général, nous nous efforçons de faire en sorte que les Mishnayot ne suivent pas son opinion. Finalement, nous nous trouvons dans une situation bizarre, où le début et la fin de la Mishnah parlent d'un cas, et le cas du milieu parle d'un autre cas. La Gemara répond, « Oui, effectivement, c'est ainsi, nous n'avons pas le choix, mais nous devons dire, « Resha vesefa bemlika, le début de la Mishnah et la fin de la Mishnah parlent d'un changement concernant la sacrification de l'oiseau, ou metziata bemitsui, tandis que le cas du milieu parle d'un changement concernant l'aspersion du sang. » Nouvelle Mishnah, « Vechulan, et tous ces oiseaux qui ont été offerts comme sacrifice, soit dans le cas où le sacrifice est valable, soit même dans le cas où le sacrifice n'est pas valable, en metam in bevet ablia, ils ne transmettent pas l'impureté du cadavre d'oiseau qui se transmet lorsqu'une personne l'avale. En effet, cette impureté n'existe que lorsque l'oiseau est considéré comme étant un cadavre, donc lorsqu'il n'a pas été égorgé selon la loi, mais s'il a été égorgé correctement, ce n'est pas le cadavre d'un oiseau, il n'a pas d'impureté. Alors, la Mishnah nous enseigne ici que lorsque le Kohen a sectionné le cou de l'oiseau, donc en général s'il s'agit d'un oiseau profane qui n'est pas sacré, celui-ci serait considéré comme étant un cadavre d'oiseau et qui transmettrait donc cette impureté. Mais puisqu'il a été sacrifié dans le cadre de l'offrande d'un sacrifice, même si le sacrifice n'est pas valable, cette action donc de Melika a le pouvoir d'enlever cette impureté, et donc cet oiseau n'a pas d'impureté. Ou Moalin Bahem, et aussi tous ces oiseaux qui ont été sacrifiés, soit si le sacrifice était valable, soit s'il ne l'était pas, celui qui en tire profit transgresse l'interdiction de Meila, Chutz Mechatat Haof She'asa'a Lemata Kema'ase Chatat Leshem Chatat, à part le cas d'un oiseau destiné à être offert comme Korban Chatat, qui a été sacrifié au pied de l'autel, et ce à la manière dont on offre un Korban Chatat, donc en ne sectionnant qu'un seul des deux organes vitaux, et aussi son sang a été aspergé à la manière d'un Korban Chatat, et il a été sacrifié au nom d'un Korban Chatat. Donc dans ce cas, le sacrifice est valable, et il est donc permis à la consommation, il n'y aura pas d'interdiction de Meila pour celui qui en profite. Mais si le sacrifice n'est pas valable, ou bien, même s'il est valable, mais il s'agit d'un Korban Ola, qui n'est pas destiné à la consommation, dans ces cas, l'interdiction de Meila n'est pas levée avec la sacrification de cet oiseau et l'aspersion de son sang, ou bien dans le cas où le sacrifice n'était pas valable, cette sacrification n'a pas levé l'interdiction de Meila, celle-ci restera donc jusqu'à ce que l'oiseau soit brûlé. Olat ha'of sha'asa'ah lemata kema'ase chatat leshem chatat. Un oiseau destiné à être offert comme Korban Ola, qui a été sacrifié au pied de l'autel, et ce à la manière d'un Korban Chatat, c'est-à-dire il n'a sectionné qu'un seul des deux organes vitaux, et ce au nom d'un Korban Chatat, donc en pensant qu'il s'agissait d'un Korban Chatat. Rabbi Eliezer Omer Moalimba, celui qui en tire profit, a transgressé l'interdiction de Meila, car le statut de ce sacrifice n'a pas changé, il reste un Korban Ola, et en plus, le sacrifice est invalidé, puisqu'il a été sacrifié d'une manière incorrecte. L'interdiction de Meila n'est pas levée. Rabbi Yoshua Omer, en Moalimba, celui qui en tire profit après l'aspersion du sang, n'a pas transgressé l'interdiction de Meila. Et ce, parce que, comme la Gemara l'expliquera par la suite, selon Rabbi Yoshua, une fois que cet oiseau a été sacrifié de cette manière, son statut a changé, il a été transformé en Korban Chatat. Et comme nous l'avons dit précédemment, une fois que le sang de cet oiseau destiné à être offert comme Korban Chatat a été aspergé, L'interdiction de Meïla a été levée puisqu'il est permis à la consommation. Amar Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer a présenté l'argument suivant à Rabbi Yoshua. Uma imchata che'en mo'alimba lishma. Si déjà, lorsqu'il s'agit d'un oiseau destiné à être offert comme korban chatat après l'aspersion de son sang, celui qui en tire profit n'a pas d'interdiction de Meïla. Lorsque cet oiseau a été offert en son nom, c'est-à-dire correctement Ksheshina et Shema, lorsqu'il a changé son nom, c'est-à-dire s'il l'a offert au nom d'un korbanola, Mo'alimba, celui qui en tire profit, a transgressé l'interdiction de Meïla, et ce, puisque le sacrifice est invalidé, l'interdiction de Meïla n'a pas été levée. Ola chez Mo'alimba, Lishma, un korbanola, donc un oiseau destiné à être offert comme korbanola, qui a été sacrifié en son nom, donc correctement, quand même celui qui en tire profit a transgressé l'interdiction de Meïla, et ce, car comme nous l'avons expliqué, puisqu'il n'est pas destiné à la consommation, l'interdiction de Meïla n'est pas levée jusqu'à ce qu'il soit brûlé entièrement. Ksheshina et Shema, lorsqu'il a changé son nom, c'est-à-dire qu'il l'a offert au nom d'un autre sacrifice, et donc finalement, le sacrifice apparemment devrait être invalidé. Enodin Sheimaluba, n'est-il pas évident que celui qui en tire profit a transgressé l'interdiction de Meïla, autrement dit que l'interdiction de Meïla n'a pas été levée? Amar le Rabbi Yoshua lui répond, lo, non, ce raisonnement est faux. Car im amar tabechatat sheshina et shemah leshemola, si tu parles d'un korban chatat, dont il a changé le nom au nom d'un korban ola, c'est-à-dire il l'a sacrifié en pensant qu'il s'agissait d'un korban ola, nous disons donc que celui qui en tire profit transgresse l'interdiction de Meïla. Il y a pour cela une bonne raison, sheken shina et shemah le davar sheshbo Meïla, puisqu'il a changé le nom de ce sacrifice pour lui donner le nom d'un sacrifice sur lequel l'interdiction de Meïla existe toujours, même après l'aspersion de son sang. Tomar be'ola sheshina et shemah leshem chatat, pourras-tu dire de même concernant un korbanola, donc un oiseau destiné à être offert comme korbanola, dont il a changé le nom pour un korban chatat, sheken shina et shemah le davar shelbo Meïla, alors qu'il a changé son nom pour lui donner le nom d'un sacrifice pour lequel il n'y a pas d'interdiction de Meïla après l'interdiction de son sang. Puisque c'est ainsi, nous devrions considérer que le statut de ce sacrifice a changé et l'interdiction de Meïla a été levée.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.